Là, je pense que tout le monde y est. Verset 1, chapitre 1. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Vous avez déjà lu l'épître de Philippiens ? Très belle épître, hein, on va la partager parce que moi je l'aime beaucoup et il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Et l'épître aux Philippiens est écrit par Paul qui se trouvait à ce moment-là à Rome, il était en prison. Hein, et il faut bien se mettre ça dans la tête, il écrit alors qu'il est en prison. C'est la première captivité, hein, il sera emprisonné une deuxième fois à Rome normalement. Alors, pour l'histoire un peu des Philippiens, hein, alors la ville de Philippe, qui tient son nom en fait de Philippe II de Macédoine, hein, qui était le père d'Alexandre le Grand, si vous connaissez un peu les grands, hein, était une colonie romaine assez prospère à ce moment-là. Alors les habitants de Philippe étaient très fiers d'être romains, hein, vraiment très fiers. Ils étaient habillés comme les romains, ils parlaient comme les romains en latin et... Il y avait beaucoup de vétérans, certainement, de l'armée romaine qui s'étaient installés à ce moment-là dans cette ville. On sait que Paul est venu la première fois lors de son deuxième voyage. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les actes, à un moment, il y a un Macédonien qui demande de venir. Hein. Il a été arrêté deux fois par le Saint-Esprit d'aller dans sa direction et Dieu l'a envoyé vers Philippe, justement. Et il va débarquer là-bas, au port de Philippe, et il va rencontrer une première dame qui s'appelle Lydie. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, elle était préparée par le Seigneur. Et puis Paul va parler, elle va se convertir. Plus tard, il y a aussi un geôlier qui va se convertir. Et Lydie sera la première femme qui sera convertie en Europe, en fait. Hein, et la première église qui va aussi se construire là. Hein, mesdames, on va être fiers quand même. Circonstances et buts de l'épître. Alors, on l'a dit, Paul était emprisonné. On voit ça par rapport à plusieurs références dans Philippiens. Hein. La lettre a été écrite certainement entre 61 et 62 après Jésus-Christ. Paul remercie tout simplement les Philippiens qui ont envoyé Épaphrodite, je les confonds toujours tous les deux, pour de l'argent, pour l'aider et le soutenir alors qu'il était en prison. Et Paul, à son tour, va renvoyer son serviteur pour leur dire tout simplement merci. Donc cette épître, quelque part, c'est cet homme qui est en prison, dans la douleur, dans la souffrance, et qui va démontrer tout son amour, tout simplement, pour ses Philippiens. Et les Philippiens étaient les rares qui soutenaient vraiment l'apôtre Paul dans son ministère. Hein. Vous connaissez les Corinthiens, eux, ils étaient carrément contre, ils lui demandaient des preuves, enfin, ils lui faisaient la misère. Mais les Philippiens sont connus pour leur amour pour l'apôtre Paul. Et quelque part aussi un exemple pour chacun d'entre nous. Donc là, on a un petit peu le témoignage de Paul dans des circonstances difficiles et dans la prison. J'ai trouvé une fois dans un livre des prisonniers, mais c'est assez passé, hein, c'est à l'époque du communisme. Et il disait un peu comment ça se passait, comment il vivait cette expérience dans les prisons. Et donc je vais dire, hein, c'est pris d'un livre, c'était un pasteur roumain qui dit ça. Il dit « Même isolés dans une cellule, nous ne pouvions plus prier comme auparavant. Nous étions inimaginablement affamés, aussi faibles que des squelettes. On nous avait hébétés jusqu'à nous faire devenir idiots. Le culte était difficile à vivre, hein, et nous ne pouvions même pas nous recueillir pour pouvoir réciter des prières, etc. Ma seule prière, dit-il, je la répétais sans cesse, c'était « Jésus, je t'aime ». Puis un jour, ô jour de lumière, Jésus me répondit « Tu m'aimes, à mon tour de te montrer mon amour. » Et soudain, je sentis au cœur une flamme aussi brûlante que les éruptions de la couronne solaire, hein, c'est un poète. Les disciples d'Emmaüs ont raconté que leur cœur brûlait en eux, tandis que Jésus leur parlait. De même, en était-il du mien ? J'ai connu l'amour de celui qui est mort en croix pour tous. Pareil amour ne peut faire exception des communistes, et donc de ceux qui les emprisonnaient, hein, quelque grave soit leur péché, en fait. Ils ont commis, ils commettent encore des horreurs, mais l'abondance des eaux ne peut éteindre l'amour, ni les marées le submerger. L'amour est fort comme la mort. La jalousie est aussi cruelle que la tombe. De même que la tombe exige tout, riche et pauvre, jeune et vieux, homme, toute race, nation et conviction politique, saint et criminel, de même la charité embrasse tous les hommes. Le Christ, qui est la charité incarnée, n'aura de cesse qu'il n'ait encore conquis les communistes. Il dit un jour, un pasteur venait d'être jeté dans ma cellule, il était à moitié mort, le sang lui coulait du visage et du corps, tant il avait été atrocement battu. Nous le lavâmes, quelques prisonniers se mirent à maudire les communistes. Le pasteur gémit et dit, ne maudissez pas, s'il vous plaît, taisez-vous, je désire prier pour eux. Vous imaginez l'amour de ces gens-là pour leur geôlier, pour ceux qui les persécutaient. C'est exactement l'amour qu'a à ce moment-là l'apôtre Paul en prison. Et j'aimerais ce matin justement qu'on apprenne à aimer un peu comme cet apôtre Paul. On va voir trois choses. D'abord, que Paul aimait en toutes circonstances. On va voir aussi les différentes facettes de l'amour de Paul et puis voir ce fardeau de l'amour. Parce que si vous voulez avoir un fardeau pour l'amour, ben, on va un peu imiter Paul. Donc Paul, un amour en toutes circonstances. On pourrait se dire, nous on aime les gens quand tout va bien. Alors on aime beaucoup. Mais si vous vous retrouvez en prison, un peu persécuté, avec un peu de sang qui coule, je ne sais pas si vous aurez autant d'amour. Je ne sais pas moi déjà. Mais Paul aimait en toutes circonstances, même quand il se retrouvait en prison. Lui, il pensait peut-être qu'il allait même mourir. Il y a plusieurs passages, il faudrait lire tout l'épître, mais par exemple au chapitre 2, il pensait qu'il allait bientôt mourir. Dans d'autres versets, on a l'impression qu'il croit qu'il va être acquitté. Je pense que dans sa tête, il ne savait pas très bien où il allait. Ce n'est pas parce que c'est un grand homme, il a aussi son humanité, et il se posait des questions sur l'avenir. On sait qu'il sera emprisonné une deuxième fois, donc il sortira libre cette fois-ci, et plus tard, cette fois, il mourra à Rome. Mais on voit aussi qu'il a été interrogé, par exemple au verset 7, il dit qu'il a défendu la foi, il a confirmé l'évangile, etc. Ça prouve qu'il a, à mon avis, été interrogé par les soldats, par les Romains, et, à l'époque, on n'interrogeait pas gentiment. Ça devait être assez difficile, à mon avis. Mais il montre au départ plusieurs amours vis-à-vis des gens. Le premier, c'est d'abord cet amour pour Timothée. C'était vraiment son fils spirituel, Timothée. Ils avaient travaillé longtemps ensemble, en association. Et dans le chapitre 2, il dit que Timothée, c'est vraiment son fils spirituel, quelque part. C'est bien d'être le papa spirituel d'un fils spirituel. Ce serait bien des fois de faire des binômes comme ça dans l'église, de trouver quelqu'un qui est un peu mon mentor ou quelqu'un qui peut peut-être m'aider dans ma vie chrétienne, pourquoi pas, à réfléchir. Mais autant Timothée allait soutenir Paul quand il était en captivité, comme le ferait évidemment un fils vis-à-vis de son père. Et c'est beau cette amitié qu'il y avait entre ces deux hommes. Il fera aussi partie de l'équipe missionnaire qui avait évangélisé Philippe, donc peut-être ça lui tenait aussi en cœur, puisque les Philippiens avaient plein d'amour pour l'apôtre Paul. Il dit aussi avoir de l'amour pour Christ, en disant il est serviteur de Christ. Nous, souvent, on dit on est serviteur de Christ, mais lui, il emploie un mot en grec, c'est doulos, et ça veut dire qu'il est esclave de Christ. Le mot parle d'être affranchi, en fait, du péché, être esclave de Dieu. Romains 6, 22 nous dit « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Vous êtes serviteur de Jésus-Christ ? Vous savez ce que je vais dire après, c'est pour ça qu'on est timide. On est appelé aussi esclave de Jésus-Christ. Autrefois, on était esclave du monde, esclave du diable, et puis Dieu nous a rachetés, mais il veut encore qu'on soit ce serviteur fidèle, esclave de Jésus-Christ. Alors, dans le monde, on est esclave, mais c'est pour la perdition. Quand on est esclave de Christ, on a un ami en face de nous. Ce n'est pas la même chose non plus. Mais l'idée de Paul, c'est de se dire, je suis prêt à faire tout, absolument tout, ce que Dieu me demande, comme le ferait tout simplement un esclave. Et c'est intéressant parce que dans cet épître, généralement, il dit Paul, apôtre de Jésus-Christ et tout ça. Et là, il dit rien. Il ne dit pas qu'il est apôtre. Et il s'unit avec Timothée. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ. Il se met sur le même plan. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se prennent pour des apôtres. Moi, je suis un apôtre. Les gars, regardez-moi, je suis grand, etc. Paul, qui était réellement un apôtre, des fois, savait enlever les titres et se mettre simplement sur la même longueur d'onde que les autres. Il s'en fichait du titre. Ce qui était important pour lui, c'était de voir que lui et Timothée servaient de la même manière le Seigneur Jésus-Christ. Si vous avez des titres dans l'Église, ça ne vaut rien. Il vaut mieux être comme Paul, accepter d'être humble et voir que chacun travaille ensemble et avec le Seigneur. Et puis, il avait un amour pour les Philippiens particulier. Il les appelle les saints de Philippe. Le mot saint, on est en train de l'étudier le vendredi soir, hein, la sainteté, la séparation. Le mot saint veut dire être sauvé, mis à part. Hein. Avant, on était dans le monde, et on avait vu ça tout à l'heure dans le psaume, hein, ce monde qui ment, qui triche, etc. Mais le Seigneur nous a sortis hors de ce monde, et comme Dieu nous voit maintenant, nous sommes saints, pas grâce à nous, mais grâce au sang de Jésus-Christ. Hein. Dieu nous voit au travers de Jésus-Christ comme étant saints. Et tous ces gens mis à part forment aujourd'hui l'Église. Vous formez l'Église, donc c'est que vous êtes saints. Il parle aussi aux évêques. Hein. Les évêques, ce sont les gardiens, les surveillants et les pasteurs. Il parle aussi des diacres. Il est en train de montrer un peu l'organisation aussi de l'Église primitive. Hein. Les diacres, c'est quelqu'un qui sert, qui techniquement s'oublie lui-même pour servir les autres. On est tous quelque part un peu un diacre, dans le sens où on est appelé à se servir les uns les autres. Mais il y avait dans l'Église primitive des personnes qui servaient davantage, qui prenaient le temps de le faire et qui le faisaient vraiment très très bien. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon pour nous à travers ces petits portraits, on pourrait dire, hein, qu'il fait assez rapidement, mais je voulais les noter. Déjà, on a dit que Paul aime en toutes circonstances. Lui, il connaissait sa mission. Il savait que le Seigneur l'avait appelé, il savait ce qui l'attendait. Enfin, peut-être pas tout, mais en tout cas, il savait que ça n'allait pas être forcément facile. Mais malgré les difficultés, il va accepter toutes les étapes. Si le Seigneur nous envoyait en Corée du Nord, comme j'aime toujours dire, hein, allez Véronique, Dieu dit que tu dois aller en Corée du Nord. Ou ailleurs, je ne sais pas, aller évangéliser. Parce que là, on exagère peut-être sur la Corée du Nord, mais aller évangéliser à Étampes, aller à droite et à gauche, dans mon lieu de travail, parce que ça, le Seigneur nous le demande. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Oui. Mais est-ce qu'on est prêt à accepter des fois les étapes, peut-être difficiles, d'évangéliser, d'annoncer l'évangile? Alors nous, on ne va peut-être pas se retrouver en prison encore. Je ne pense pas, en France. Hein, mais il y en a qui se retrouvent en prison. Mais ils ont accepté qu'ils sont esclaves du Seigneur. Ils ont accepté de servir le Seigneur. Et pour cela, ils ont aussi accepté les difficultés qui sont liées à cela. Ce n'est pas toujours simple d'être chrétien. Hein. Alors quand on est dans le monde, qu'on essaie de témoigner, on nous raille, on nous moque un petit peu, bon... pas la fin du monde non plus. Et qui sait, peut-être un jour, ils vont se convertir. Mais si je me dis serviteur, je me dis aussi que je dois accepter toutes les situations que Dieu va mettre devant moi. Et Dieu agit dans toutes les situations. On pourrait se dire, enfin, je me mets un peu à la place de Paul, je suis en prison, je suis bloqué dans l'évangélisation. Ah oui, parce que là, il ne peut pas travailler, en fait. Alors, il pourrait un peu ruminer, se dire, waouh, c'est nul, c'est pas l'endroit où il faut me mettre pour que je puisse évangéliser. Mais lui savait évidemment que Dieu agit même dans l'épreuve. Quelqu'un écrivait, toujours, j'ai rien contre les communistes, hein, mais j'ai trouvé là-dedans, c'est en prison que nous est venu l'espoir de sauver les communistes. C'est là que s'est développé le sens de notre responsabilité à leur égard. C'est lorsqu'ils nous torturaient que nous avons appris à les aimer. Intéressant ce qu'il est en train de dire. Il prend conscience que peut-être dans la difficulté, dans l'horreur peut-être de ce qu'ils vivaient, eh bien Dieu était aussi en train d'agir. Et qu'à leur tour, maintenant, ils devaient, comme à l'époque l'apôtre Paul, eh bien, leur montrer de l'amour, évangéliser, même si les circonstances ne s'y prêtaient pas forcément. Des fois, on a l'impression que là où on est, peut-être on ne peut pas servir, ou ce n'est pas utile, peut-être je n'ai pas encore eu l'occasion de parler à quelqu'un. Toutes les circonstances sont bonnes. Le Seigneur a son temps, parfois, et peut-être qu'il va nous mettre sur un lit d'hôpital un jour, on va se dire « Ah, je ne peux plus évangéliser ». C'est complètement faux. C'est là où vous allez évangéliser encore plus. Vous allez être malade un jour, ou peut-être paralysé, je ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver dans une vie. Ne croyez pas qu'on peut plus servir le Seigneur. On peut servir Dieu de mille et une manières. Et l'apôtre Paul l'avait compris même quand il était en prison. Donc on n'est jamais bloqué, en fait, pour évangéliser et pour être serviteur de Jésus-Christ. Paul avait aussi de l'amour, c'est ce qu'il nous apprend, hein, parce que lui, il se savait aimer à ce moment-là. Vous savez, vous êtes en prison, vous êtes un peu... Les Corinthiens ne l'aimaient pas trop, beaucoup d'autres lui posaient des questions, remettant en question son ministère. Il est tout seul en prison. Je ne sais pas, l'ambiance, c'est pas très cool, quoi. Hein, mais le fait que les Philippiens lui envoient et de l'argent et leur soutien, ça devait être quelque chose de formidable pour lui, hein, et qui devait être agréable. Et il se sentait et soutenu par Dieu, et soutenu par Timothée et par les Philippiens. Peut-être qu'on connaît des gens qui sont dans la difficulté aujourd'hui. Est-ce qu'on prend le temps d'y réfléchir? Déjà prier, ça serait bien, mais pourquoi pas envoyer du soutien d'une manière ou d'une autre, hein. Il y a Porte Ouverte qui permet des fois d'écrire des lettres aux prisonniers. Pourquoi pas? Il y a mille et une façons de faire. Hein. Mais il se savait aimé. Et c'est ça, je pense, qui lui donnait aussi la force de continuer. Bon, il se savait aimé de Dieu, mais vous savez, ça fait du bien aussi quand ça vient des êtres humains. Hein. Surtout quand c'est vous qui les avez conduits au salut, etc. Il se savait aimé, et lui aimé à son tour. Et lui qui est l'apôtre, quand même, acceptait l'amour des autres. Des fois, il y a des gens qui sont tellement grands dans leur ministère que, voilà. Ben lui, humblement, acceptait l'amour des autres, tout simplement. Et il s'en nourrissait, je pense, et c'est ce qui lui donnait aussi la force. C'est formidable de s'aimer les uns les autres. Les apôtres, à l'époque, avaient besoin d'être aimés, les pasteurs, les diacres, tout le monde a besoin d'être aimé. Et c'est bien de le faire sentir. Les Philippiens auraient très bien pu dire « Oui, Paul, on t'aime !» Enfin, en disant ça chez eux, là-bas, hein, en restant là-bas. Mais ils ont démontré leur amour. C'était de l'argent, mais aussi en envoyant Épaphrodite. Hein, mais ils ont démontré leur amour. C'est pas juste de dire qu'on aime quelqu'un. Il faut le démontrer aussi par une manière ou une autre. Et ça, nous pouvons le faire. Donc on apprend une première chose, c'est que l'amour n'a pas de circonstances pour exister. Le Seigneur nous demande d'aimer notre prochain. On ne va pas lui dire « Ah, mais là, aujourd'hui, hein, ma journée était difficile, donc je ne vais pas aimer. » Ou alors « Je suis en prison, je ne vais pas aimer. » Paul nous démontre que quoi qu'il arrivait dans sa vie, il aimait tout le temps, et de la même manière. Hein. Ce n'est pas pour ça qu'il était heureux, que ça allait bien. Je veux dire, en prison, je ne pense pas qu'on soit si heureux que ça. Mais il est là, pour moi, en tout cas, un exemple, une démonstration de ce qu'est l'amour en toutes circonstances. Deuxième chose qu'on peut voir dans ces premiers versets, c'est les différentes facettes de l'amour de Paul à l'encontre des frères, et nous les approprier, évidemment. Hein. Alors, il a un amour qui souhaite la grâce et la paix. Hein. C'est la formule de départ au verset 1. C'est une formule de salutation à l'époque. Ce serait bien que le matin, on se dise que la grâce et la paix soient avec toi, Bruno. Ce serait sympa que, bonjour, ça va ? Ça changerait un petit peu, non ? Non, on ne fait pas comme ça. On est quand même un peu plus chaleureux. Mais il y a une idée derrière, c'est pas juste du dire pour dire. Il y a vraiment le désir de Paul que cette grâce et la paix soient avec les Philippiens. Hein, et qu'il les aime, il démontre son amour là. C'est une salutation avec plein de désirs. Alors, à nous peut-être d'en inventer quelques-unes, je sais pas, s'il y en a qui ont un peu d'imagination. Mais voilà ce que Paul en fait souhaitait pour ces Philippiens, c'est le meilleur de Dieu et de Jésus-Christ pour eux. Et ça serait bien que le matin, quand on arrive, on souhaite le meilleur pour les uns et les autres de Jésus-Christ aussi. On arrive un peu fatigué, la semaine a été difficile, je sais, mais si on se souhaitait le meilleur, ça serait sympa, non ? Ça changerait peut-être l'arrivée le dimanche matin, je ne sais pas. Bon, on va essayer de faire ça la semaine prochaine. On peut souhaiter le meilleur en partant aussi, hein. On va essayer aussi dans l'autre sens. Mais voilà, il y a vraiment ce souhait de l'apôtre Paul que Dieu fasse quelque chose de merveilleux avec ses Philippiens. Il était en prison, hein, je le rappelle juste. Il aurait pu démoraliser, il aurait pu dire « Ok, c'est plutôt à eux de m'aimer », non, lui il le souhaite. Que la grâce et la paix soient données. Hein. En même temps, il fait une espèce de mini-confession là, hein, parce qu'il dit de Dieu le Père. Il voit dans ce Dieu le Créateur, celui qui a tout fait, qui est à l'origine de toutes choses. Et en même temps, un Père, c'est quelqu'un qui prend soin de son fils, de son enfant. Et donc, en désirant ben justement la grâce du Père, c'est désirer tout simplement les soins pour ces Philippiens de la part de Dieu. Et puis, de la part de Jésus-Christ aussi, le Seigneur. On va voir dans le chapitre 2 la seigneurie de Jésus-Christ qui va éclater. Mais en confessant cela, il fait vraiment de Jésus-Christ le Seigneur, ça veut dire celui qui est mort sur la croix, et celui qui est ressuscité et qui est à la droite de Dieu le Père aujourd'hui, et qui peut aussi soutenir à ce moment-là les Philippiens et lui-même dans l'Église. Notre facette, c'est un amour qui est au travail. On sait aimer, mais on sait rester souvent passif dans cet amour. Lui, il le met au travail. Et l'amour se souvient de prier. Parce qu'on voit d'abord au verset 4 à 7 la joie de Paul pour les Philippiens. Il n'est pas heureux parce qu'il est heureux, mais c'est parce qu'il voit le travail qu'eux font dans leur église, l'impact de l'évangile dans la région, etc. Ils font un sacré boulot, en fait, ces Philippiens. Et ça réjouit forcément l'apôtre Paul qui a implanté cette église. C'est comme, je pense, Jeff quand il vient, enfin, je ne sais pas s'il a dit, j'espère qu'il est heureux chaque fois de voir qu'il y a de plus en plus de monde dans l'église. Ça réjouit, évidemment, celui qui implante et qui a travaillé dans ce sens-là. Et elle voit aussi le travail de Jésus-Christ dans la vie des Philippiens. Ce n'est pas seulement la croissance, on va dire, numéraire, mais c'est le travail que Dieu fait dans les Philippiens eux-mêmes et dans leur cœur. Et ça ne peut que réjouir un pasteur, un apôtre, ou à l'époque, etc. Quand on voit les gens qui grandissent avec le Seigneur, vous faites ma joie. Hein. J'imagine la joie de tout le monde, évidemment, mais c'est la joie, évidemment, de celui qui travaille pour le Seigneur. Ça contraste terriblement avec les Corinthiens, si vous les connaissez. Les Corinthiens remettaient en question l'apostolat de Paul, le criaient presque dessus, enfin, n'en voulaient pas, etc. Vous voyez le contraste entre ces chrétiens qui vraiment étaient reconnaissants vis-à-vis de l'œuvre qu'il avait fait. Fait du bien, surtout qu'on est en prison. Et il se souvient de cela, mais pas simplement pour s'en souvenir, parce qu'il dit, il prie pour eux. Et il prie, on va voir un peu plus tard, mais il prie pour qu'ils croissent spirituellement. Hein. Il se souvient d'eux, mais il se met au travail tout de suite aussi. Et prier, c'est un travail. C'est pas facile de prier tout le temps et régulièrement. Et là, le mot qu'il emploie en grec, c'est pas le mot prière habituel, c'est plutôt la supplication. Il est vraiment en train de supplier Dieu pour que cette église grandisse, se fortifie, croisse spirituellement. Et c'est pas pareil que « Seigneur, là, il met tout son cœur. Il met vraiment tout son cœur. Et souvent, on prie un peu rapidement, comme si, bon, voilà, c'était... Il faudrait des fois mettre son cœur, comme le fait l'apôtre Paul. Et Paul a semé, hein, à l'époque, dans cette église, et maintenant, ben, on pourrait dire que, voilà, j'ai bâti l'église, et puis je m'en vais, et puis il se débrouille. Hein. Il y en a qui font comme ça, hélas. Mais lui, il continue, hein, parce qu'il veut que son témoignage continue, qu'au travers de la prière qu'il met au travail tous les jours, ben, que cette église prospère de plus en plus. Hein. Si un jour vous devez quitter l'église des Trichy parce que vous êtes muté, je vais prier pour que ça n'arrive pas, évidemment. Mais j'espère que vous continuerez à prier pour nous. Ben, j'espère. Je ne sais pas si on le mérite. Hein. Ce n'est pas parce qu'on part qu'on peut oublier forcément les églises où on était autrefois. Je prie toujours pour l'église où là je suis né de nouveau, hein, à Arles. Et je prie régulièrement pour eux parce qu'ils ont besoin aussi de ma prière. Et on peut prier après pour toutes les églises en France. Hein. Il y a des annuaires gros comme ça, hein, si vous voulez travailler, il y a du boulot. Hein. Mais bon, commençons par prier déjà pour nous-mêmes, ça serait pas mal. Deuxième facette de cet amour au travail, c'est un amour solidaire. On a vu, Paul est plein de joie et pour la part qu'ont pris les Philippiens dans son souci à lui d'évangéliser et de faire grandir cette église. Hein. Et il dit, ils ont pris part du premier au dernier jour. En fait, ils sont dans une espèce de régularité de l'évangélisation. Ce n'est pas on évangélise en janvier, et puis on laisse tomber jusqu'en décembre, et puis on reprendra peut-être en janvier, si on n'est pas trop fatigué. Hein. Mais il fait froid en janvier, donc je ne peux pas distribuer les traités. Mince, on verra en été. Ah mais en été, je suis en vacances. Mince, comment on va faire? Il y avait une idée de régularité. Alors, l'évangélisation, ce n'est pas que les traités, on est bien d'accord. Hein. Il y a mille façons d'évangéliser dans mon travail, dans ma famille, dans mon voisinage, etc. Une parole, une prière, offrir une Bible, il y a mille et une façons de faire. Mais lui, il était réjoui que ces Philippiens avaient compris le travail qu'ils devaient faire après. Lui avait implanté, avait évangélisé, mais eux ont poursuivi tout simplement son œuvre. Et c'est ce que le Seigneur nous demande aussi. Le mot « prendre part », là, dans le grec, on ne comprenait pas en français, mais c'est communion fraternelle. Ah, hein, la koinonia. En fait, il y a une espèce de communion fraternelle dans l'évangélisation. C'est intéressant. Souvent, nous, on pense communion fraternelle, agape. Et on se dit, voilà, c'est ça la communion fraternelle, peut-être le dimanche matin, mais il y a aussi une communion fraternelle dans ce travail d'évangélisation. Ce n'est pas qu'une personne qui doit le faire, c'est toute l'Église qui devrait être en communion fraternelle dans ce souci de voir ses âmes perdues être sauvées. Est-ce que c'est vraiment notre cas ou, bon, on espère que le pasteur avec François vont distribuer un peu plus de traités pour qu'il y ait d'autres gens qui vont venir. On a notre travail, mais chacun est normalement responsable dans ce travail. Chacun d'entre nous, on devait être en communion, justement, pour avoir ce souci d'évangélisation. Et Paul était réjoui parce qu'il avait poursuivi ce travail, tout simplement. L'autre facette, c'est cet amour humble et optimiste. Hein. L'amour est humble, en tout cas, c'est ce qu'on voit avec l'apôtre Paul. Hein. C'est parce qu'il ne dit pas « c'est moi qui ai commencé ce travail à Philippe », il dit « c'est Dieu qui a commencé cette bonne œuvre ». Il aurait pu dire « c'est moi ». C'est vraiment lui qui était là, qui est venu évangéliser, tout ça. Mais il se remet en retrait comme le serviteur. Et il accepte que c'est Dieu qui a fait cette œuvre au travers de lui, certes, mais il sait que c'est Dieu qui œuvre. Sur Étréchy, ce n'est pas tous les pasteurs avant, ou moi, ou je ne sais pas qui, c'est Dieu qui œuvre dans cette église. Et heureusement, si ça devait être sur nous, si on devait compter sur nous, des fois, je ne sais pas où on irait. Mais Dieu œuvre dans toutes les églises, et il a œuvré à ce moment-là à Philippe. Et en même temps, Paul se replace, on pourrait dire, dans la souveraineté de Dieu, dans le travail de Dieu, hein, et réalise sa véritable place, hein. Voilà, il est un outil dans ce que Dieu fait dans ce monde, un simple outil, humble, et en même temps réaliste, parce que, voilà, si je peux faire des choses pour Dieu, c'est pas grâce à moi, c'est parce que Dieu me donne les moyens aussi de le faire. Hein. On a l'impression que grâce à moi, je peux évangéliser, grâce à moi, je peux faire un tas de choses. Il faut avoir l'humilité, la Bible dit, hein, c'est tout vient de Dieu, c'est pas grâce à moi. Hein. Et le Saint-Esprit nous aide dans ce domaine-là. Mais lui avait compris et sa place, et était réaliste, tout simplement, dans ce travail que faisait Dieu. Et en même temps, au verset 6, la deuxième partie, cet amour espère le meilleur. Hein. Il dit « Dieu achèvera ce qu'il a commencé ». L'optimiste. Des fois, on pourrait se dire, hein, là, en ce moment, avec nos soucis peut-être de finances dans l'Église, qu'est-ce qui va se passer pour l'avenir ? Est-ce qu'on peut rester là ? Est-ce que l'Église va grandir ? Il est optimiste. Hein. Dieu achèvera ce qu'il a commencé. Il rendra son œuvre parfaite au jour de Jésus-Christ. C'est quand même beau. Il est en prison, hein. Il y a de quoi démoraliser. Il est optimiste pour ceux qui sont dehors. Un jour, on sera comme lui, hein. On est loin. Mais il sait que Dieu achèvera parce que c'est Dieu qui a commencé justement cette œuvre. Si c'était l'homme, forcément, ben, ça serait plus difficile. Et en attendant, il prie tout simplement que Dieu travaille dans les chrétiens pour que cette sanctification, cette transformation se passe dans la vie de tous les chrétiens pour qu'ils deviennent à un moment mature. Il le dit dans d'autres épîtres, mais il veut que les chrétiens deviennent mûrs spirituellement, pas des enfants, mais matures. Puis un amour selon Jésus-Christ, autre facette, hein. L'amour de Paul est plein d'affection, hein, vous l'avez compris, c'est vraiment le papa gâteau, j'ai envie de dire, c'est peut-être un peu exagéré, mais vraiment, il aime ses Philippiens de tout son cœur, et il le dit au verset 7, comme un père qui porte ses enfants, vous voyez tout l'amour qu'il avait pour ses Philippiens, parce qu'il participe aussi à la même grâce, quelque part il dit, vous et moi, on est déjà dans l'éternité, donc on profite un peu déjà de cet amour qui va être parfait là-haut, là sur la terre, et j'espère qu'on peut vivre cet amour aussi, nous, les uns vis-à-vis des autres, hein. Parce que vous allez partager l'éternité avec moi. Si vous ne m'aimez pas, hein, ça va être compliqué. Hein. Ou si je ne vous aime pas, ça va être compliqué aussi. Le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Bon, là-haut, on sera transformés, on sera parfaits, donc on s'aimera, ne vous inquiétez pas. Mais on participe tous à la même grâce. Et Paul les chérit avec la tendresse, hein, au verset 8, il dit de Jésus-Christ. Et il prend Dieu en témoin, hein. C'est pas juste dire... Ouais, je les aime, quoi. Ouais, ils sont sympas. Et en fait, le terme là qu'il emploie, c'est quelque chose de juridique. En fait, il prend vraiment Dieu comme témoin juridique de l'amour qu'il porte réellement à ses Philippiens. Des fois, on dit qu'on aime le voisin, etc., mais on prie pas pour lui, on s'en fiche un petit peu. On l'aime, voilà, il est sympa. Mais quand on aime vraiment, lui, il prend vraiment Dieu à témoin, donc il rigole pas, à mon avis, quand il dit ça. Hein. Est-ce qu'on pourrait pas aimer de la même manière? Pas du blabla. Mais un réel amour pour le voisin, pour celui qui est dans la même église que moi, ou pour les chrétiens, évidemment. Il dit qu'il les chérit, c'est-à-dire que le terme parle de désirer, aimer, avoir un vif désir d'aimer, évidemment, ces Philippiens. Et il dit cela avec la tendresse. Hein. Or, le mot, c'est en fait les entrailles. Vraiment, il aime, mais du plus profond de lui-même, ces Philippiens-là. Une profondeur de cœur. En fait, on pourrait dire qu'il aime comme Jésus-Christ aime, tout simplement. Je ne sais pas si on peut aimer aussi bien que Jésus-Christ, mais en tout cas, on peut essayer d'aller au maximum. Donc, on voit là une facette de cet amour au travail, hein, de Paul. Il aimait, en fait, comme Jésus-Christ aime, tout simplement. Si seulement on pouvait s'aimer comme cela. Regardez votre voisin, là. Ce que vous l'aimez de cette manière-là. Tu peux regarder derrière. C'est une image. Mais est-ce qu'on est prêt à aimer de la même manière, le dimanche matin, oui, puis lundi, on a tous oublié, peut-être, je ne sais pas. J'espère que non, et que vous notez un peu les noms au fur et à mesure, que vous priez les uns pour les autres. C'est un travail de l'amour aussi. Mais c'est un travail. Eh oui, et on est fatigué dans la semaine, donc travailler le soir, prier pour les uns et les autres. Fatigant, hein. Mais si on aime vraiment, ça se fait naturellement. Donc, un véritable amour fraternel unissait Paul et les Philippiens malgré les épreuves. Et nous, on soutient plusieurs missionnaires, et c'est bien quand on peut les accueillir. Et je pense que Krim a été vraiment très content déjà de ce qu'on a fait pour lui là-bas, mais qu'il sait qu'on prie pour eux, qu'il en a vraiment besoin. Et Joël Chiron aussi sait qu'on le soutient dans la prière, etc., etc. Ils ont besoin, ces gens-là. Parce que Joël, il se sent seul, hein, comme il nous disait quand on était là-bas. Ils se sentent vraiment complètement isolés. Et c'est un peu comme Paul, ils ont vraiment besoin de sentir le soutien des uns et des autres. Alors je pense qu'il n'y a pas que nous qui le soutenons, hein, mais c'est bien de le faire. Puis il y a un jour, vous peut-être, vous serez dans une chambre d'hôpital, c'est glauque les hôpitaux, hein. C'est pas terrible, peut-être dans la maladie, s'il n'y a aucun chrétien qui vous téléphone, aucun qui vient vous visiter, que tous les dimanches on vous dit « je t'aime mon frère », ça serait quand même triste, hein. Ça serait vraiment triste. Il faut démontrer notre amour, il ne faut pas simplement dire qu'on aime. Et l'apôtre Paul démontre justement qu'il aime ses Philippiens. Une troisième chose qu'on voit, c'est le fardeau de l'amour. Mais selon Paul, on va dire, hein, il a un fardeau pour ses Philippiens, mais pas simplement pour les aimer. Il l'a exprimé par la prière, on l'a vu, mais il prie pour certaines choses. Et l'intercession est tellement importante pour le voisin. Hein. Quelqu'un écrivait, parlant de l'intercession, hein, « Voici l'un des rôles les plus nobles de la prière. » Aider notre prochain, c'est la Bible qui nous le dit, le Seigneur aussi. Jésus était l'intercesseur par excellence, et l'est toujours, puisqu'il intercède pour nous tous les jours. Il est le modèle suprême. Sa prière en Jean 17, par exemple, est l'expression d'un amour intense. Prier pour les autres est le résultat de l'agapé que Dieu met dans notre cœur. C'est le fruit de l'esprit, et à ce titre, il doit être cultivé. Mais pour beaucoup d'entre nous, l'intercession est le domaine le plus pauvre de notre prière. Elle n'est que, comme il dit, le post-scriptum. Nous nous enthousiasmons dans la louange, nous nous épuisons dans la confession, nous faisons un festival d'égocentrisme pour nos requêtes, mais se souvenir des autres, difficile. C'est une autre histoire. C'est pourquoi je ne m'aventurerai pas à parler d'un excès d'intercession. Son abondance n'est jamais négative. Notre amour pour les autres doit être entretenu au travers de la prière. Ça se fait à la maison, ça se fait ici. On a la possibilité de le faire deux fois dans la semaine, mais intercéder les uns pour les autres. Paul l'avait compris, les Philippiens l'avaient aussi compris, et les deux travaillaient en même temps. Et Paul priait justement pour eux, pour que les uns et les autres prient pour eux-mêmes. C'est là la démonstration d'un vrai amour fraternel. Si vraiment vous voulez voir que si un frère vous aime, demandez-lui s'il prie pour vous. C'est ça, l'amour fraternel. Et le prier, alors il y avait un objectif dans cette prière, c'est pour que leur amour augmente en connaissance et en pleine intelligence. Alors que cet amour augmente, c'est que ça aille de progrès en progrès. Ne vous dites pas aujourd'hui, j'atteins le summum de l'amour. Oh, qu'est-ce que j'aime! Je suis tellement parfait dans mon amour. Croyez-moi, il y a encore du boulot à mon avis. Mais on peut progresser dans cet amour. Et non seulement dans cet amour, mais il dit en connaissance. Le fardeau de l'apôtre Paul, c'est que les chrétiens connaissent de mieux en mieux qui est Dieu, qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Bref, la théologie, on n'aime pas ce mot, mais il voulait vraiment qu'ils grandissent en connaissance. Ce n'est pas juste une option dans la vie du chrétien. Il faut vraiment apprendre à connaître qui est Dieu. Vous savez, si l'apôtre Paul ne savait pas qui était Dieu, qu'il était souverain, qu'il était capable de le délivrer ou pas, qu'il était capable de scier ça, vous croyez franchement qu'il aurait pu traverser la prison tranquillement comme ça? Il aurait fait une dépression nerveuse ou il serait peut-être suicidé tout simplement. Avec toutes les églises en plus qui le soutenaient pas, je ne sais pas comment il aurait tenu. Mais parce qu'il connaissait Dieu réellement comme il était, c'est ce qui l'a aidé à le soutenir dans son épreuve. Pasteur est souvent tout le temps à dire, il faut lire la Bible, à connaître Dieu et gnagnagna. C'est parce qu'un jour ça sera utile dans l'épreuve et dans la difficulté. On a besoin de savoir qui on est en train de suivre et de savoir qui il est et ce qu'il peut aussi pour moi. Ne croyons pas qu'on sache tout parce qu'on a lu une fois la Bible. J'ai lu plus d'une fois. Ce n'est pas pour ça que je connais Dieu encore par cœur. Donc il faut du temps et accepter de croître dans cette connaissance. Et il dit aussi en intelligence, il ne s'agit pas simplement de percevoir les choses par les sens, parce qu'aujourd'hui c'est ce que fait l'Église un peu globalement, les émotions, les sensations, ça, quand je sors de l'Église j'ai eu plein d'émotions, donc j'ai été béni par Dieu, j'ai souvent rien appris du tout, c'est bien dommage, ça c'est l'Église aujourd'hui, mais les émotions ça... Et le lendemain il y a l'épreuve et là, vos émotions ne servent à rien, absolument à rien. Mais c'est plutôt l'idée de l'intellect là-dedans. Il veut qu'il grandisse en connaissance et en intelligence pour que l'intelligence soit transformée par Dieu, la volonté soit transformée par Dieu, et qu'on commence à discerner vraiment ce que Dieu veut pour moi, ce qu'il peut pour moi, etc. L'amour, ce n'est pas qu'un sentiment. Bien souvent, on croit qu'aimer, c'est juste un sentiment. C'est bien plus qu'un sentiment, je pense. Il doit connaître pour pouvoir discerner, pour pouvoir aussi être parfait. Et je pense que le but de Paul pour ces Philippiens dans la croissance de la connaissance et l'intelligence, c'est qu'il savait qu'il y avait beaucoup de faux docteurs, beaucoup de sectes autour, qui rentraient dans les églises et qui mettaient tout en sac, tout simplement. Mais si eux avaient une bonne assise théologique, ben forcément, ils pouvaient les repousser et continuer à grandir spirituellement. Beaucoup de gens se font tromper aujourd'hui sur Internet, hein, j'ai rien contre Internet, mais bon, il y a quand même beaucoup n'importe quoi. Et les gens, parce qu'ils n'ont aucune connaissance, disent « Amen, Amen, Amen ». Je vois des fois sur des Facebook, on met des « Ouais, like » et tout ça, mais ces gars-là, moi je les écouterai même pas, quoi. Ils disent des hérésies et les gens disent « Bravo ». C'est triste quand même quand on voit ça, c'est triste. Mais il manque la connaissance et l'intelligence tout simplement de la parole. Il avait aussi le fardeau, mais avec des objectifs. Parce que s'il veut qu'ils grandissent en connaissance, en intelligence, c'est pour qu'ils apprennent à discerner les choses meilleures. Souvent, c'est bien dommage parce que le chrétien va se contenter des choses basiques. Et vous savez qu'on peut se contenter de choses meilleures. C'est quoi le meilleur dans la vie chrétienne? Répondez pas, réfléchissez, c'est tout. Qu'est-ce qui peut être meilleur encore dans ma vie chrétienne aujourd'hui? À moins que vous soyez au top déjà, mais là, j'ai un doute quand même. Les choses meilleures. C'est tout simplement, le mot grec veut dire « tester ». Le verbe employé pour discerner signifie « mettre à l'épreuve, faire passer un test », en fait. C'est ainsi que l'on testait les pièces de monnaie pour s'assurer qu'elles n'étaient pas fausses. Il y avait déjà de la fausse monnaie à l'époque. En Luc 14, 19, on voit un homme qui veut tester les bœufs qu'il vient d'acheter. Une fois le test pratiqué, on sait ce que vaut l'objet. On peut porter un jugement sur lui, éventuellement l'approuver, le trouver bon. Et on retrouve ce verset dans Philippiens 1, 10, pour le discernement des choses les meilleures. On va tester, mais je peux tester uniquement si j'ai pu apprendre d'abord, si j'ai grandi en connaissance. Je ne peux pas tester autrement. On ne peut pas savoir si une monnaie est fausse si on n'est pas un professionnel de la monnaie. C'est exactement la même chose. Et là, Paul voulait justement qu'ils apprennent pour pouvoir discerner les choses les meilleures, tester ces faux docteurs, peut-être les doctrines qui circulaient à ce moment-là. Paul veut des chrétiens matures, des chrétiens mûrs, qui grandissent. On ne peut pas être mature du jour au lendemain, il faut du temps. Mais c'est comme quand on est bébé, on grandit, il faut 15 ans pour devenir un ado, et puis il faut un peu plus pour devenir un retraité. Mais on grandit, tout simplement. Et c'est ça l'idée de l'apôtre Paul pour les Philippiens. Et surtout qu'ils sachent défendre leur foi. Moi, j'aimerais bien que, de temps en temps, on vienne là, qu'on me demande « qu'est-ce que vous pensez de la Bible ?» Il n'y a pas assez souvent. Moi, j'aime défendre ma foi. Mais il faut aussi avoir du contenu pour cela. Connaître peut-être les positions des uns et des autres. Mais en lisant la Bible régulièrement, je pense qu'on peut apprendre à défendre la foi. Avec nos mots, on n'est pas tous pareils, mais on peut la défendre. Un autre objectif ou fardeau qu'il avait, c'est qu'il soit pur pour le jour de Christ. Le mot « pur », en fait, signifie, on le retrouve dans d'autres versets, on parle de pureté là-dedans. L'étymologie de ce mot n'est pas claire, mais peut-être formée du nom « soleil », ce qui implique l'idée de limpidité et de transparence. Elle présente aussi la notion de quelque chose qui n'est pas mêlé ou mélangé. Finalement, c'est être trouvé pur lors d'un examen à la lumière du soleil. Si on mettait la lumière sur vous, est-ce que on serait pur, transparent? Non, peut-être pas transparent, c'est un peu bizarre, mais est-ce qu'on serait pur de cette manière-là? Parce que Paul voulait justement que ces Philippiens soient trouvés purs devant Jésus-Christ. Ça a un autre sens aussi, dans le sens où ce qu'il voudrait, c'est que la vie chrétienne glorifie tout simplement le Seigneur au quotidien. Vous savez, on dit des fois on est sauvé, donc on prend notre vie chrétienne tranquillement, à la pépère, comme on dit, mais un jour on sera aussi évalué. Pas pour remettre en question le salut, mais au tribunal de Christ pour savoir ce qu'on a fait étant dans notre corps de bien et de mal. Et on a tendance à oublier qu'en tant que serviteur, je serai évalué à la fin. Il ne faut pas se dire que Dieu est plein d'amour, il va donner des récompenses ou pas. Il y en a qui sont même sauvés au travers du feu. C'est-à-dire qu'il se passera quand même quelque chose. Et l'évaluation est sérieuse. Il faut le prendre au sérieux. Et Paul le savait justement. Il prie aussi pour qu'il soit irréprochable pour le jour de Christ. Alors évidemment, au travers de Jésus-Christ, on est trouvé irréprochable. Mais si en tant que chrétien, j'ai des scandales, si on peut faire que des reproches, forcément, ça ne fera pas très beau devant Jésus-Christ. On est bien d'accord. C'est une vie qui fait honneur à Dieu, tout simplement. C'est une vie qui a un bon témoignage, une vie qui est fidèle à Jésus-Christ, et comme l'a démontré tout simplement l'apôtre Paul. Elle dit pour qu'il soit aussi rempli du fruit de justice. Le verbe, c'est plutôt « ayant été rempli de fruit de justice » qui est par Jésus-Christ. On n'a pas ce fruit de justice par nous-mêmes, c'est parce que Jésus nous a sauvés. Christ est la source, justement, de cette transformation et de ce que l'on peut produire aujourd'hui au travers de ce fruit de justice. Vous connaissez le fruit de l'esprit, Galates, toutes les choses qui sont là, à nous de les mettre en place dans notre vie. Et si on vit comme cela, eh bien, le Seigneur est tout simplement honoré. Et termine au verset 11, pour qu'il glorifie Dieu. Le but de l'apôtre Paul, c'est qu'il grandisse, qu'il discerne, mais qu'au travers de la vie, il glorifie aussi Dieu. Et si l'Église glorifie vraiment Dieu, vous savez, c'est un impact, honnêtement. Les gens, aujourd'hui, ne veulent pas des évangiles, bien souvent, parce qu'il se passe n'importe quoi. Et évidemment, à la télé, ils prennent toujours les pires. C'est bien dommage. Et ça fait peur aux gens, je comprends. Mais quand l'Église vraiment glorifie Jésus-Christ, agit comme Dieu demande, ça peut avoir un impact sur l'extérieur. Et j'aimerais tellement que les gens nous voient. Le Seigneur n'est pas pressé, et il sait ce qu'il fait ici à Étréchy. Et terminons par cette doxologie. Une doxologie, c'est une espèce de formule de louange à la gloire de Dieu. Vous le voyez plusieurs fois avec l'apôtre Paul. C'est aussi une formule de tradition juive à l'époque. Il veut que tout soit à la gloire et à la louange de Dieu. Et ce qu'il dit tout simplement en résumé, vous savez, quand vous êtes mûr spirituellement, vous faites plaisir à Dieu. Quand on n'est pas mature, c'est comme papa et maman, quand on fait n'importe quoi, les parents ne sont pas contents. C'est la même chose, qu'on met tout son être à essayer de mûrir spirituellement. Chacun est différent, chacun sa vitesse, on est bien d'accord. Mais si je veux vraiment grandir avec le Seigneur, Dieu est glorifié. On se pose des fois la question, comment je peux rendre gloire à Dieu? Eh bien, voilà, une façon de le faire, apprendre à mieux le connaître, apprendre à mieux connaître sa parole, apprendre à mieux connaître qui est Jésus-Christ, apprendre à défendre, tout simplement, la foi. Et là, chaque fois, Dieu est heureux. Et moi, j'aime bien rendre Dieu heureux. Je ne sais pas vous, mais moi, si. L'amour prie, donc, hein, parce que là, on parlait de l'amour de Paul, mais l'amour prie avec un fardeau. C'est pas Seigneur, béni, Bruno, Amen. Des fois, je prie comme ça, je suis désolé. Non, c'est pas vrai. Mais mon but pour lui, c'est autre chose. Enfin, pour tout le monde, hein, ce qu'il va dire. Mais on prie avec un fardeau pour l'autre. Hein. Il a besoin de quelque chose. Il a besoin de grandir, ça c'est sûr. Il a besoin peut-être de travail, il a besoin d'être soigné. Enfin, bref, il y a un fardeau. Et quand on prie comme cela, vous savez, la prière, elle change complètement. Hein. C'est pas ennuyant, c'est pas mécanique. Mais c'est l'amour qui se met tout simplement au travail pour mon frère, pour ma sœur, en Jésus-Christ. Et j'espère que vos prières, c'est que, et vous-même, vous vouliez devenir plus mature, pour plaire à Dieu, mais aussi de voir les autres devenir plus matures. Il ne s'agit pas de se comparer en disant « Ah, moi je suis plus mature que... » Ce n'est pas ça l'idée, hein, on est bien d'accord. Mais que chacun d'entre nous, on puisse vraiment devenir plus mature, et donc forcément plaire à Dieu. Vous savez, si on mûrit vraiment spirituellement, Dieu peut faire beaucoup de choses avec chacun d'entre nous. Et ça a un impact aussi sur l'Église, ne croyez pas ça. Pour terminer, l'amour de Paul survit en toutes circonstances, on l'a vu tout à l'heure, et avec un fardeau pour les autres. Si Paul a pu aimer partout, je pense que nous-mêmes, nous pouvons aimer partout, en toutes circonstances. On n'est pas appelé à faire ce que Paul a fait, mais bon, dans nos circonstances à nous, pour l'instant, je pense que ça va. Hein. Vous n'êtes pas persécuté, je crois. Vous n'êtes pas en prison, vous ne manquez pas de faim. Enfin, il me semble qu'on peut se mettre au travail dans nos circonstances à nous. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Et on peut justement avoir un fardeau pour les autres, pour le frère et la sœur. Hein. Comme Paul, soyons frères et sœurs, soyons des frères et des sœurs qui portent des fardeaux. Hein. Et là, il y a un petit texte que je trouvais intéressant de l'amour pour le frère. Hein. Alors, c'était durant les vacances de Noël et un monsieur avait garé sa voiture pour aller s'acheter le journal. Et il remarqua un garçon sale et en habit déchiré, qui regardait sa voiture. Il se dit que s'il ne faisait pas vite, il manquerait certainement un enjoliveur au retour. Il revint avec le journal sous le bras, et au moment d'ouvrir la portière de la voiture, le garçon lui demanda « Monsieur, combien doit coûter une voiture neuve comme ça ?» Et le monsieur répondit « Je ne sais pas, mon frère m'en a fait cadeau l'année dernière à Noël. » Avec des yeux incrédules, le garçon regarde la voiture émerveillé. Puis il dit quelque chose d'inattendu. Il n'a pas dit que ce que vous auriez pensé, c'est-à-dire « Oh, j'aimerais avoir une voiture comme ça ». Non, il a dit « Oh, j'aimerais être moi-même un frère comme ça ». Être le frère pour quelqu'un d'autre. Avoir un tel amour, telle profondeur. Et c'est ce que je souhaite pour nous, les uns et les autres, que nous ayons cet amour pour le frère. Et réciproquement, que vous ayez de l'amour pour moi. Aimez-moi. C'est ce que demande l'apôtre Paul, tout simplement. Et c'est réciproque, ça va dans l'autre sens. Hein. Nous souhaitons que souvent les chrétiens nous aiment, mais est-ce que nous, on est prêts à porter l'autre dans l'amour, dans la prière, avec un fardeau au quotidien? En tout cas, cette épître commence justement par un amour qui est vraiment là, dans les deux sens. Hein. Autant Paul aimait les Philippiens et les Philippiens aimaient l'apôtre Paul. On voit là qu'il y avait un gros travail d'équipe. C'est ça qui est intéressant. Dans l'amour, dans le fait de porter des fardeaux, il y avait vraiment un travail d'équipe. Une personne ne peut pas le faire seule. Et si tout le monde travaille en même temps, alors là, vous allez voir ce que Dieu va faire avec une telle équipe. En Philippiens 3, pour terminer, versets 17 et 10, « Soyons tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyons tous ces imitateurs. » Prions. Seigneur, merci pour cet épître aux Philippiens et merci surtout pour le témoignage d'amour de l'apôtre Paul. Nous l'avons dit, quelles que soient les circonstances, il aimait les chrétiens, il aimait tous ceux qui l'entouraient, Seigneur, et c'est vraiment un exemple pour nous. Nous avons des circonstances simples en ce moment et apprends-nous justement à développer cet amour pour le prochain. D'abord, l'amour dans l'Église, pour les frères, pour les sœurs, pas simplement en théorie, mais aussi en pratique, Seigneur, que puissions porter les fardeaux des uns et des autres. Et pour cela, évidemment, il faut apprendre à connaître les uns et les autres, apprendre à prier régulièrement pour chacun d'entre nous et pour les besoins aussi de l'Église, Seigneur. Apprends-nous aussi à prier pour ce monde qui est perdu, comme le faisait l'apôtre Paul. Son but était d'évangéliser et beaucoup de gens ont été sauvés grâce à son ministère. Fait que nos vies soient aussi ses serviteurs, ses esclaves de Jésus-Christ, au service, avec un bon témoignage, avec le désir d'annoncer la bonne nouvelle à quiconque veut bien l'entendre. Bénis cette Église, Seigneur, et que tu la fasses grandir en connaissance, en intelligence, pour qu'elle puisse discerner les choses les meilleures pour elle-même, pour se protéger aussi de ce qui se passe à l'extérieur, et tout cela, tout simplement pour te faire plaisir. Je te prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.